motion. Box back out to Allen. His three-pointer. Bang! Tie game.
Rush deep shot.
Get it! What a perfect ending to a historic day.
Et salut à tous et à toutes, on se retrouve enfin pour un nouvel épisode du Two Way Podcast. On a pris des vacances, ouais, trois épisodes, on était déjà fatigués, je crois que c'est, y a rien d'autre à expliquer. Épisode 4, du coup, aujourd'hui, je suis toujours accompagné de mon fidèle acolyte, Vincent. Comment ça va aujourd'hui?
Ah bah ça va, comme un matin où tu te lèves et que t'as un peu la tête dans les fesses, mais ça va, ça va.
Comme un jeudi, 14 juillet, la plus belle des journées. Alors, aujourd'hui, on se réunit pour discuter.
Je sais pas si tu sais, mais un 14 juillet, c'est la date où j'ai ressuscité. Voilà, il faut le savoir.
Ah, ça sera peut-être l'épisode du sujet numéro 5 du Two Way Podcast, qui sait, la résurrection.
les vrais comprendront la ref, mais bref.
Alors, du coup, Vincent, aujourd'hui, on se réunit pour parler draft, mais pas vraiment celle qui s'est passée récemment. On va parler de draft, d'expansion. Du coup, je voulais commencer
en cours aussi.
Hein? Ouais, l'expansion en cours, c'est vrai que ça a plusieurs noms. Je pense, je vais balancer un peu une hot take, mais j'estime que la NBA est une, si ce n'est la meilleure ligue sportive et la plus bankable au monde, et qui a quand même des systèmes plutôt bien développés. Alors, je suis pas bien sûr fan de beaucoup de sports en dehors du basketball, mais je trouve quand même qu'on a une très belle vitrine et que c'est un très beau produit.
Ah ça, ça oui, mais c'est sûrement, je suis pas forcément d'accord sur le produit le plus bankable, parce que je pense que la NFL reste le produit le plus bankable au monde, mais peut-être le produit le mieux marketé à l'international, le plus global, ouais. Je pense que ça serait un peu plus correct.
Un peu plus approprié, ouais, puis on va en parler justement du global aujourd'hui, peut-être en fin de podcast plutôt, mais du coup aujourd'hui on va se pencher sur le cas du coup de l'expansion, la draft d'expansion en NBA. C'est quand même un gros morceau de l'histoire de la NBA qui remonte beaucoup plus tôt dans l'histoire que ce qu'on peut penser. Et du coup, avant que je te lance, moi je trouvais que, tu vois, si tu me dis draft d'expansion, il y a une personne à qui je vais directement penser, c'est David Stern. Ouais. Et justement, aujourd'hui, on va peut-être discuter un petit peu de voir que ce n'est pas forcément la vraie figure de proue de ce grand tronc de l'histoire de notre ligue. Du coup, Vincent, très rapidement, est-ce que tu pourrais expliquer, au cas où certains ne soient pas au courant, qu'est-ce qu'une draft d'expansion?
C'est simple. Une expansion déjà globale, ça veut dire que tu ajoutes une nouvelle équipe à la ligue, une équipe qui n'existait pas préalablement. Donc, c'est pas, par exemple, c'est pas comme quand les Sonics sont déménagés à Oklahoma City, parce que là, du coup, ça reste la continuité d'une franchise. Mais même si elle change d'identité, mais du coup c'est ajouter une nouvelle franchise à la ligue. En général, ça se fait par l'intermédiaire du comité d'expansion de la ligue, donc c'est des vieux monsieur qui se réunissent, qui disent ok, toi tu peux venir, et voilà. Donc c'est des projets qui, en général, pour avoir fait un peu le tour avec la grande ligue, en général c'est des hommes d'affaires locaux qui font un sorte de conglomérat, qui se mettent ensemble, parce que mine de rien ça demande beaucoup de thunes d'intégrer la ligue, et qui montent un projet. Il est examiné par cette fameuse commission, et ensuite si c'est possible ils intègrent la ligue. Et là, dans ce cas-là, il y a la draft d'expansion, c'est-à-dire que toutes les franchises ont le droit de safe. C'est combien de joueurs par équipe? C'est 6 ou 7, un truc comme ça?
Ouais, il me semble que c'est déjà un nombre suffisant pour être capable de jouer. Moi, j'ai un certain nombre de joueurs, donc au moins de quoi faire un roster.
C'est ça. En fait, du coup, ils vont piocher. La draft d'expansion, où habituellement dans la draft normale, tu pioches parmi les joueurs, les joueurs NCAA.
Disponibles, ouais.
Ouais, c'est ça, les jeunes pépites, quoi, les jeunes prospects. La draft d'expansion, en fait, tu piques parmi les joueurs de la ligue. Et donc dans toutes les équipes, sauf que chaque équipe, bien sûr, peut protéger un certain nombre de joueurs. En général, je crois que c'est 7, 8, un truc comme ça, histoire que tu ne défigures pas ton roster, tu vois. Genre, bien sûr, là, si demain il devait y avoir une draft d'expansion, les Sixers protégeraient Joel Embiid, enfin voilà.
Oui, tu l'as bien dit. Tu l'as bien dit, pour le coup, c'est un processus où les équipes peuvent piocher chez les autres équipes, mais dans la réserve, dans la liste disponible, j'ai envie de dire, un peu les conditions générales d'utilisation des joueurs qui sont non protégés. Donc, tu vas piocher un peu chez les voisins pour te faire un peu ton équipe. Et ça explique, on verra après peut-être sur le tas, pourquoi en général les jeunes équipes, toutes fraîchement créées, ont du mal un peu à démarrer. Et du coup, ouais, en opposition, on a la draft de dispersion. C'est un processus pour le coup qui arrive plus souvent en WNBA, mais on n'en parle pas souvent. Du coup, c'est voilà l'opposé. Et il faut bien le distinguer de ce que justement tu as dit par exemple avec Seattle et Supersonics, où là, on parle vraiment de délocalisation. Et on verra peut-être pourquoi aussi c'est quand même une tendance, un phénomène qui risque plus d'arriver qu'autre chose.
Ouais, du coup, c'est ça. Puis la draft de dispersion dans l'histoire de la ligue, vu que là on va parler purement de NBA, il y en a qu'une seule, tu vois. Bon, même si elle se fait sur 2 ans, donc c'est, on peut considérer 2 drafts, mais ça fait partie du même mouvement. Il y a qu'une seule draft de dispersion en NBA, quoi.
C'est ça.
En fait, dans l'ère moderne.
C'est ça. Du coup, on a eu une déclaration d'Adam Silver il y a pas trop longtemps. Justement, en fait, c'était pendant les rencontres entre Boston et les Warriors sur ces finales NBA 2022, où on l'a un petit peu relancé encore sur une prochaine expansion de la NBA. On sait que c'est un dossier qui traîne dans les tiroirs depuis quelques années.
Ah, ça prend de mer.
Lui, il a un peu buté en touche. Il a dit on ne va pas en parler pour l'instant. La ligue pour le moment, elle est bien comme elle est. Peut-être qu'une expansion viendra un jour, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà, il a encore mis un petit coup de pause sur le dossier. Donc à travers l'histoire de la ligue, il y a quand même eu, on va dire, plusieurs vagues d'expansion.
En fait, je pense que c'est important de le préciser. Une expansion en général ne vient jamais seule. Une équipe ne vient jamais seule. En général, ça vient par vagues. On verra, on va isoler les différents types de vagues pour voir un peu les logiques qui sous-tendent ces vagues, qui sont complètement différentes parce que c'est des vagues qui viennent à différentes périodes de l'histoire de la ligue. Mais une équipe vient rarement seule. Bon, on peut penser au dernier cas, la toute dernière expansion qui est avec les Charlotte Bobcats. Mais bon, ça c'est une toute autre histoire. Ça.
Ouais. Et puis du coup, comme tu l'as dit, c'est vrai que ça représente quand même un projet faramineux où il faut quand même plusieurs acteurs en général, il faut énormément d'argent il faut quand même déposer un dossier solide. On verra par la suite aussi des potentielles équipes qui pourraient réclamer une franchise NBA. Il y a quand même des candidats très solides. Et pour le coup, je pense qu'on va les regrouper presque par décennie. Du coup, Vincent, si tu veux bien, on peut commencer. La première grosse vague qui arrive dans les années 60.
C'est ça, à la fin des années 60, la première grosse vague. Donc, c'est la vague de Chicago, c'est la vague des Rockets, c'est la vague des Supersonics, c'est la vague des Bucks, c'est la vague des Sonics, c'est la vague des Braves, c'est la vague des Cavaliers et des Portland Trail Blazers. Donc, c'est toute une vague qui s'étend de 1966 jusqu'à 1970.
Même 61, puisque t'as les Packers de Chicago qui deviendront les Wizards maintenant, mais
ouais, ça j'ai tendance à le mettre,
côté parce que c'est vraiment début de la décennie, c'est sûr.
Ouais, non, mais parce que du coup les logiques sont pas encore les mêmes, c'est pas encore Walter Kennedy qui est aux commandes. En fait, il faut savoir que en fait des expansions en NBA, il y en a depuis toujours, parce que dès la première saison, il y a des équipes qui se créent, d'autres qui disparaissent. Enfin, c'est un grand foutoir. Bah, jusqu'à peu près à la dynastie des Celtics, hein, finalement, on peut dire que c'est un peu tout et n'importe quoi, des équipes qui disparaissent, d'autres qui se créent, d'autres qui déménagent. Chaque année, la ligue n'a jamais le même nombre d'équipes. Mais on peut vraiment considérer, à partir du moment où les équipes sont 10, donc à partir de 66 avec l'arrivée des Bulls, là on peut vraiment considérer qu'on rentre dans une ère réellement d'expansion de la ligue, dans le sens où après il n'y aura plus trop d'équipes qui vont disparaître, même plus du tout. On va toujours aller vers de l'avant, quoi. Vraiment une phase de croissance, même si bien sûr il y aura cette fameuse période à la fin des années 70, début des années 80, où la ligue a mauvaise presse et on sait tous les problèmes de drogue et surtout les problèmes de droits télé et de diffusion qui vont pas mal gangréner la ligue. Mais sinon, globalement, c'est vraiment une période vertueuse pour la Ligue qui va grossir au fil des années, quoi.
Du coup, je vais reprendre un peu l'historique et les chiffres. Donc, comme tu dis, en 66, on a les Bulls de Chicago qui arrivent. 67, on a les Rockets de San Diego qui sont les actuels Rockets de Houston. On a les Supersonics de Seattle qui sont l'actuel Oklahoma City. En 68, on a les Bucks de Milwaukee et les Phoenix Suns. 70, on a les Cleveland Cavaliers, les Portland Trail Blazers et les Buffalo Braves qui sont devenus les actuels Clippers. Et comme tu l'as dit, du coup, on a vraiment cette tendance vers l'avant. Même si en fait au début, au tout début, la genèse de la NBA, on a un nombre d'équipes qui est plus élevé. On part de cette fameuse date, voilà, des 66. On est à 10 équipes. Après, on passe à 12, 14, 17, et ensuite on fait que monter. Et tout va un peu s'enclencher. C'est comme si on avait plusieurs rouages qui trouvaient enfin leur mécanique. Et voilà, le produit NBA commence vraiment à se solidifier doucement mais sûrement.
Et en fait, il faut savoir que du coup. Si on prend 66 comme date, c'est pas pour rien, c'est parce qu'à l'époque, il y a un nouveau commissionnaire qui vient de prendre le pouvoir, c'est Monsieur Walter Kennedy. Si on a souvent tendance à associer, comme tu l'as dit, l'Expansion Draft à David Stern, Walter Kennedy, c'est un personnage très important et assez oublié en fait, de l'histoire de l'NBA, parce que d'une certaine manière, il va sauver la Ligue aussi. Parce qu'il faut savoir qu'à la fin des années 50, hein, bon, la NBA, c'est pas encore ce que c'est aujourd'hui, début des années 60 non plus. Et du coup, ce fameux Walter Kennedy va commencer à négocier des premiers droits télé, les premiers droits de diffusion, qui vont mettre pas mal de beurre dans les épinards. Et c'est aussi lui qui va avoir une idée. Il va se dire, bon, il faut que je conquière de nouveaux marchés. Il faut qu'on augmente le nombre d'équipes. Et pour ça, la seule solution, et en même temps, tu vois, ça veut dire aussi gagner des sous par rapport aux sommes demandées, tu vois, pour intégrer la ligue. Par exemple, les Bulls, je crois que c'est, je sais plus c'est quoi la somme demandée pour les Bulls, mais bref, c'est une somme pharaonique pour l'époque, qui choque un peu le monde du sport, mais ça permet aussi directement de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Et c'est pour ça qu'il a un gros plan d'expansion. Par exemple, sur Buffalo, Cleveland, Portland, en 70, quand il en intègre 3 d'un coup, c'est vraiment dans cette logique-là. Hein. C'est dans cette logique, il faut du cash, il faut un maximum de cash et go, quoi.
C'est le premier qui a vraiment donné l'allure business ou lucrative un peu de la Ligue. Mm-hmm. Et bon, merci pour les travaux, j'ai envie de dire. Quand même, il a posé les premières pierres, la fondation, et c'est pour ça que ouais, je voulais vraiment mettre l'accent sur le fait que on a évidemment David Stern en tête, parce que c'est celui qui est le plus capé avec 30 ans de carrière. Mais pour le coup, et Kennedy a été très, très important.
Puis il faut savoir aussi qu'en 66-67, c'est aussi la création de l'ABA, tu vois. Donc la NBA a besoin de cash pour concurrencer la ABA. Et autre petit détail, mais pas des moindres, parce que du coup, ça nous fera venir sur la deuxième vague d'expansion, c'est qu'à la base, en fait, la ABA n'est pas créée pour concurrencer la NBA. La ABA, elle est créée pour plus tard fusionner avec la NBA. Dans l'optique, en fait, l'optique des propriétaires de franchises de la NBA, c'est de se dire, bon, le propriétaire des Bulls, il a payé je sais plus combien, enfin une somme mirobolante, nous, on n'a pas forcément les moyens. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter notre ligue de notre côté, et puis une fois qu'on sera assez gros pour embêter la NBA n'aura pas de choix que de nous racheter, on fusionnera, et finalement, on aura une équipe NBA à bas prix.
Non, mais je vois NBA season begins, price of a starting NBA franchise is up to $32.5 million. Donc déjà, ça te donne un bon petit truc. Mais oui, tu vois, par exemple, ils disent les Supersonics et San Diego Rockets avaient payé presque $2 million pour rejoindre la NBA. Milwaukee Phoenix, $2 million. Donc, faut remettre les choses dans son contexte à l'époque. Ça a l'air d'être un SMIC parce que tu peux te payer un joueur NBA facilement à ce prix-là. Mais voilà, à l'époque, on parle d'un produit qui n'est pas encore bankable, qui n'est pas forcément encore stable.
Ouais, puis l'inflation n'est pas passée par là, quoi.
Donc voilà, évidemment, c'était vraiment une énorme manne à débourser, j'ai envie de te dire.
Bien sûr, je pense que c'est pas un produit globalisé comme aujourd'hui, tu vois. Enfin, c'est à l'époque débourser $2 million pour une équipe de basket,
qui passait pas à la télé,
ça relève presque de l'inconscience, hein.
C'est ça. Je pense qu'on peut directement transitionner. T'en as parlé un petit peu, la fusion NBA et NBA.
Après, on ne sait pas pourquoi ça s'est mal passé, parce que justement, on va arriver sur l'autre truc. Finalement, la super bonne idée des propriétaires de franchises NBA de se dire on va avoir des franchises à bas coût et puis on va réussir plus tard à fusionner avec la NBA. Y a eu une petite épine dans le pied, en fait.
C'est ça, c'est passé
comme prévu.
Le petit imprévu. Et donc, voilà, tôt ou tard, la NBA qui finit par se faire englober par la NBA. Et du coup, on a quatre équipes qui rejoignent, j'ai envie de dire, la maison mère. Donc, ces quatre équipes qui sont les Nuggets de Denver, les Pacers d'Indiana, les New York Nets, qui sont du coup devenus Brooklyn, et une petite franchise dont on parlera pas tellement parce que ça vaut pas 3-4. Voilà, c'est des petits sous, tu vois, une mie de pain. Les fameux Spurs de San Antonio.
La plus belle franchise de l'histoire. Mais ouais. En fait, pour la faire courte sur la fin de la NBA, disons que en fait, il y a un procès qui se passe. Le fameux monsieur Oscar Robertson qui porte un procès contre la NBA, qui en fait a un procès antitrust parce que il voit que la NBA et la NBA commencent à se rapprocher. Le problème, c'est que vu que la NBA est arrivée et qu'il y a une alternative pour les joueurs, Ça a fait augmenter déjà les salaires des joueurs et en même temps, ça leur a donné plus de droits. Le truc, c'est qu'ils voient d'un mauvais œil que les deux ligues fusionnent parce que du coup, ça ferait un monopole et les joueurs se retrouveraient en infériorité. C'est ça. Et donc, ce procès d'antitrust, il va durer super longtemps et il va coûter plein de thunes. Et finalement, c'est ce qui va plus ou moins amener à la mort annoncée de la NBA et jusqu'en 76 où en fait c'est vraiment ils commencent à 18 et ils finissent à 6.
Ouais, voilà. On avait déjà parlé un petit peu d'Oscar Robertson dans un précédent podcast. Si vous l'avez pas écouté, on ne peut évidemment que vous y renvoyer. Mais oui, vraiment, c'était on est vraiment d'une manière un peu crue dans un joyeux bordel, comme tu viens de le dire.
Ouais, bien sûr. Après, il faut savoir qu'il y aurait pu y avoir plus d'équipes. Alors, en fait, ils ont fini à 6. Donc, il y avait encore, de mémoire, il y avait les Colonels du Kentucky et je ne sais plus c'est quoi, la sixième équipe qui est encore vivante. Ah, c'était les Spirit of Saint-Louis, je crois. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que la NBA s'est dit on ne va pas réussir à intégrer tout ça d'un coup. Donc, ils en ont pris 4. Et il faut savoir qu'ils ont dû raquer. Je crois que c'est 2 millions de dollars qui étaient demandés aux propriétaires NBA pour intégrer la ligue, pour que leur franchise subsiste. Par contre, pour différentes raisons, les Spirit of Saint-Louis et les Colonels du Kentucky ont été démantelés. Par exemple, pour les Colonels du Kentucky, c'est parce que c'est un peu de la faute des Bulls. C'est parce que du coup, les Colonels du Kentucky étaient les propriétaires de Artis Gilmore. Et avant ça, les Bulls avaient drafté Artis Gilmore, donc ils avaient les droits d'Artis Gilmore et ils voulaient absolument récupérer Artis Gilmore. Donc ils ont un peu fait le forcing pour que les Colonels mettent la clé sous la porte. Bon, après, c'est pas grave parce que c'est grave, mais le propriétaire.
Ouais, il y a des gens qui ont perdu leur taf.
C'est ça de ouf. Mais disons que le proprio des Colonels du Kentucky a été dédommagé. On lui a offert plus tard une franchise qui deviendra. Je crois que. On lui a donné la capacité de racheter les Buffalo Braves, je crois. Mais bon, bref, tout ça pour dire que c'est une fusion, en tout cas une absorption qui se fait aussi dans la douleur. Je pense par rapport, par exemple, aux New York Nets qui se font complètement enfler parce que du coup, les Knicks voient d'un mauvais œil qu'une nouvelle franchise débarque à Gotham. Et je crois qu'ils sont obligés de payer une somme, en plus des 2 millions de dollars à la Ligue, ils sont obligés de payer, je crois, 500 000 ou 1 million aux Knicks, et en plus de s'exporter en banlieue. C'est pour ça qu'ils ont été obligés d'ailleurs de vendre Julius Erving, qui d'ailleurs a été proposé aux Knicks avant d'être proposé aux Sixers. Mais bon, les Knicks, ils ont dit « Oh, non ». Voilà.
Non, merci. Encore un bon coup de flair de la part de nos amis Linux.
De ouf.
Et oui, comme tu l'as dit, la fameuse taxe d'habitation, j'ai envie de dire, c'est...
Ah bah, selon ma théorie, la Nets curse a commencé à ce moment-là. Hein. Je pense que c'est à ce moment-là qu'ils sont installés sous un cimetière indien et que tout est parti.
Ça ferait l'affaire d'un bon podcast aussi, ça, la malédiction des Knicks, enveloppe froide et compagnie. On y viendra peut-être un jour. Du coup, comme tu l'as dit, les équipes, hein, le nombre d'équipes s'écroule, mais remonte au final très rapidement. Puisque on arrive dans le milieu des années 70 et on arrive même, on va dire, on pousse un petit peu plus loin en 1980. Les derniers arrivés sont les Mavericks.
Ouais. Mais 23 avec Dallas du coup. Mais Dallas, c'est un peu un cas isolé, hein, parce que du coup début des années 80, c'est quoi, c'est 80 ou 79 Dallas, un truc comme ça.
80.
Bah, ça c'est une période, comme on l'a dit, hein, c'est la fin du règne de Kennedy qui se passe très mal, avec de la NBA qui est plus diffusée sur l'antenne nationale, ou en tout cas c'est que des rediffusions. C'est une galère sans nom. Il y a la drogue qui gangrène la ligue. La plupart des franchises sont sacrément endettées. Vraiment, là, c'est une époque très sombre. Et on pense à un certain moment à. Il faut savoir qu'à cette époque-là, on a pensé à faire de la dispersion et à détruire certaines franchises parce que 23 a été longtemps considéré comme intenable.
D'ailleurs, oui, comme tu l'as dit, un moment un peu phare. Kennedy, du coup, qui a posé d'énormes fondations, se fait remplacer par Larry O'Brien sur les 10 prochaines années à peu près. Il arrive en 75, il me semble.
Ouais.
Donc, on passe encore la main à quelqu'un d'autre. Et du coup, voilà, on a refait un peu.
Larry O'Brien qui doit vraiment faire le sale boulot, hein, parce que sa période, il a une période de transition entre Walter Kennedy et David Stern. Et déjà, il doit s'occuper de la fusion avec la ABA. Et ensuite, il doit s'occuper de tous les problèmes qui arrivent. Parce que intégrer 4 nouvelles équipes comme ça, ça s'est fait dans la douleur. Il faut savoir qu'à part les Spurs, qui sont plutôt bien sortis parce que George Garvin, parce que tout ça, Larry Cannon et compagnie, toutes les autres équipes ont sombré directement et ont passé des très mauvaises années. Hein. Je pense à Indiana... aux Nuggets, franchement, ça a été dans la douleur, hein, cette fusion.
Et on verra encore après, du coup, pour le coup, c'est que ce que je disais un peu au début, c'est que c'est quand même assez compliqué quand tu prétends à lancer un business aussi gros avec autant d'argent de galérer autant sur les premières années. C'est jamais rose, évidemment. Mmh. On dit souvent dans le business que la première année, tu ne fais pas de profit, si t'es à zéro, t'es déjà bien. Mais je pense évidemment sur les plus récentes années, puisqu'on les a un peu vues nous-mêmes, les Vancouver Grizzlies, etc. Ouais. C'était vraiment, c'est compliqué.
Après, là, c'est différent parce que c'est sur cette draft, enfin cette expansion, cette vague d'expansion canadienne, on en reviendra plus tard. Mais eux, ils n'ont pas été aidés par le comité des proprios. Hein. Mais ouais. Donc il y a des franchises, comme je te disais. Donc on est au début des années 80. Il y a des franchises qui manquent de disparaître. Je pense à la fameuse anecdote là que Marvin nous a raconté là récemment sur non c'est pas Marvin c'est Franck qui nous a raconté sur les Pacers qui sont obligés de faire un sorte de téléthon sorte de téléthon du miracle pour continuer d'exister quoi et en plus enfin à la fin de la soirée c'est grâce à un don venu de nulle part qu'ils réussissent à réunir la somme. Vraiment, c'est une époque où on est plus dans l'optique de réduire le nombre, peut-être à 20. Je pense que le plan initial était de le réduire à 20, de passer de 23 à 20. Et finalement, ce qui se passe, c'est qu'il y a un monsieur qui débarque en 84 et qui va mettre tout le monde d'abord. D'accord.
Moi, je viens juste d'avoir l'image en tête de, je sais pas, Monté McNair, tu vois, GM des Kings, qui ouvre un OnlyFans ou une cagnotte Litchi, s'il vous plaît, aidez-nous avec le donation goal à 5 millions, tu vois.
Bon, après, je pense que 5 millions.
5 millions, je fais pas grand chose avec, ouais. C'est sûr.
Je pense pas qu'ils sauveraient une franchise avec 5 millions de nos jours. Hein. Bon, à l'époque, non. 5 millions, c'est bon, tu roulais sur l'or, mais nos jours, c'est.
Il faut rajouter quelques zéros maintenant.
Ah ouais. Bah on y viendra à la fin du podcast, à ton avis, à combien vont devoir débourser les mecs pour se payer une franchise d'expansion dans les années qui viennent. À mon avis, on sera plus proche du milliard.
Oh bah quand tu vois déjà les cotations de certaines franchises, on avait eu l'affaire Donald Sterling à l'époque, le ouais. prix auquel ça avait été vendu, on est clairement sur un PEL un peu plus élevé, j'ai envie de te dire.
Il y a un avant, il y a un après cette histoire. Il y a un avant, il y a un après affaire Sterling. Enfin, je veux dire, c'est combien qu'ils le rachètent
2 milliards. Donc ouais, déjà on parle des Clippers qui sont tout. On est sur la Lob City début quoi, donc vraiment. Imaginez un rachat des Boston Celtics un peu tendu quoi.
Du coup là on avance un petit peu, donc David Stern blablabla, le sauveur de la NBA blablabla, vous connaissez l'histoire. Donc on se retrouve à une NBA fin des années 80 qui se porte plutôt bien parce que Magic, parce que Bird sont passés par là, parce que Young Michael Jordan, bref. Tout se passe plutôt bien, business is back.
Et ouais, on va vraiment remettre le point d'orgue là-dessus, c'est qu'on le dit souvent, hein, la rivalité Magic, Larry, Lakers, Celtics a fait énormément de bien à cette ligue, et du coup, il va en bénéficier un peu d'une certaine manière. Donc, et on a des nouvelles franchises qui arrivent du coup fin des années 80, 88 et 89.
Bah, en vrai, c'est pas tant la rivalité que le storytelling qui a été fait autour de cette rivalité qui a permis de sauver la NBA, tu vois. Bon, après, moi, j'ai toujours trouvé qu'on en fait beaucoup, qu'on a tendance à romancer cette histoire, mais je pense qu'on en reviendra dans un autre podcast.
Moi, j'aime bien les belles histoires, on y reviendra, c'est sûr.
Et ouais, du coup, fin des années 80, donc il y a un objectif, c'est l'objectif rebattre une équipe à Minnesota, parce que bon, gros territoire de sport, et puis c'est important, tu vois, c'est le pays des Lakers, donc il y avait un objectif vraiment qui était remettre une équipe à Minnesota, et ensuite il y avait un autre objectif, c'était la Caroline du Nord, et ensuite ils voulaient mettre une autre équipe en Floride, et ce qui s'est passé, c'est que du coup faut savoir qu'il y a eu deux projets qui ont été déposés à Miami. Le Heat, comme on le connaît aujourd'hui, c'est le deuxième projet qui a été déposé, mais avant ça, il y a eu un autre projet, Miami, bref. Et en tout cas, il devait y avoir que trois équipes, et finalement, le dossier de Miami et le dossier de Orlando étaient tellement béton tous les deux. D'ailleurs, ils se sont affrontés pendant à peu près 3 mois, où ça s'est insulté par presse interposée pour savoir qui aurait la faveur d'avoir une franchise. Et finalement, c'est tombé. Les deux dossiers étaient béton. Et donc là, on a la grosse vague d'expansion avec 4 équipes entre 88 et 89, avec les Hornets, pas ceux que vous connaissez aujourd'hui, parce que ça va être...
Hornets de Charlotte, ouais, qui sont les Pelicans, du coup, actuellement.
C'est ça. Le Heat, les Timberwolves et le Magic.
Mais ouais, du coup, on sent un peu aussi cette, tu vois, la Floride qui n'avait pas encore de franchise à cette époque. Mmh. T'as parlé de la Caroline du Nord aussi. On est un peu dans la même vibe. Et
c'est ça. Ils prennent des gros marchés sportifs en fait qui sont pas encore exploités.
C'est ça. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est 4 marchés très importants où on est encore en fait dans une période où ça. T'as l'impression, tu vois, que ça brainstorm dans les bureaux de la NBA. Et dit attends, il y a encore des villes là. Il y a encore des grosses villes aux États-Unis qui n'ont pas encore leur franchise NBA. Il faut qu'on se pose là-bas. Et ça va encore reposer les bases sur le débat plus tard de par exemple Seattle, Las Vegas, qu'on verra plus tard. Mais voilà, ils cherchent encore à planter un bâton, tu vois, à mettre un petit piquet de tente là où ça sent l'argent un peu, tu vois.
Ouais, bien sûr. Et puis là, pour le coup, la Floride, c'était évident qu'il fallait que... Enfin, je veux dire, de ce que j'ai lu, David Stern, il a fait cette expansion juste pour la Floride, quasiment, tu vois. Parce que c'est un des marchés sportifs les plus gros aux États-Unis, c'est un des États les plus peuplés. Puis c'est bankable d'avoir une franchise en Floride, tu vois. Enfin, c'est une image cool, c'est l'image des surfeurs, des mecs un peu riches.
Des papiers botoxés qui ont l'air d'avoir 25 ans.
c'est ça, ouais. Mais vraiment, c'était un marché à exploiter, quoi. Et je pense que pour ce qui est de Minnesota, c'est autant historique que le marché qui est intéressant aussi, parce que bon, ça reste un gros marché sportif, c'est le marché des Kings, tout ça, ça reste un état assez important, même si bon, on va pas se le cacher, c'est un état de plouc un peu, mais...
Posons les bases.
Non, mais disons que c'est grand, il fait froid, il y a beaucoup de forêts, quoi. Tu vois ? Mais bon, bref.
Ça me rappelle un endroit où j'habite et tu me fais mal au cœur, là.
Ouais,
d'une certaine manière, on peut lui donner raison, même si ça dépend encore de beaucoup de choses derrière. Quand tu vois le palmarès, on va dire, surtout de Miami, même si Orlando a fait quand même des finales, ils ont eu Shaq, ils ont eu Penny, ils ont eu Dwight Howard, on parle quand même de deux franchises qui, au final, attirent, parce que voilà... Si on fait un peu un raisonnement comme on vient de l'expliquer basique, il fait beau, il fait chaud, ça paye bien, donc c'est vrai que je sais pas si tu regardes depuis les années 90, Miami Orlando, ça a quand même été plus que sympa et on a quand même eu des belles années pour les deux quoi.
Ah non, mais c'est je pense que c'est enfin Miami et Orlando sont deux des projets d'expansion les plus rondement menés qui aient lieu. Bon après Miami c'est différent parce que le FO qui réussit à avoir la franchise d'expansion n'est vraiment pas le même que celui qui plus tard réussira à débaucher Pat Riley pour faire cette fameuse équipe avec Hardaway et Mourning. Faut savoir que du coup c'est comment il s'appelle déjà le patron actuel, bah c'est le fils du gars qui a réussi à avoir l'expansion. Et donc c'est quand le papa est retourné en Israël et que le fiston prend vraiment les rênes que là ça se passe
le,
bien.
Le CEO du Heat.
Ouais.
Nick Harrison.
Voilà, c'est ça. Nick Harrison, mais c'est son papa qui c'est Ted Harrison son papa je crois. Non. Attends.
Mickey, non
Mick
ouais, Harrison. Homme d'affaires, ouais, propriétaire du Miami Heat.
Bah, c'est son
Ted
papa.
Ted Harrison, le père.
Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Bah, c'est Ted Harrison qui est un peu le gros poisson qui, lui, en fait, ne connaît rien du tout au basket, qui est propriétaire d'une flotte de croisières, parce que, bon, Miami, les petites îles à côté, tout ça, bon, bref. Et donc, ce gars-là va être approché par plusieurs types, dont la légende des Sixers, Billy Cunningham. Et ils vont nous dire, ah, mais en fait, il y a un projet d'expansion à Miami et tout. Franchement, c'est une bonne idée. Viens, on fait pareil, sauf qu'on le fait de notre côté. Et donc, les gars qui devaient avoir la franchise à la base, on peut faire passer devant parce qu'il y avait Billy Cunningham dans le lot. Et en même temps, parce que Ted Harrison était très, très, très riche. Et en fait, le début du Heat sont sympas, mais c'est vraiment à partir du moment où Ted Harrison passe la main à Mick. Même, il passe pas vraiment la main parce que Mick rachète l'équipe. Hein. Tu sais, ils sont très dans. Tu sais, c'est très dans le côté américain, tu sais, un peu républicain, où l'héritage, c'est non, il faut que tu fasses ta propre fortune, tout ça, tu vois, genre, ils sont dans le délire comme ça.
Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Encore une fois, hein, on remet l'accent sur avoir des pépettes, ça aide pas mal quand même dans la vie.
Ah bah, clairement, ouais.
Et... voilà, ouais, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Je te propose qu'on passe sur
la dernière.
Pour ce qui est, moi, pour moi vraiment la vraie dernière draft d'expansion, et on va partir, on va s'exporter un petit peu, pas trop loin, mais un peu quand même.
Mais c'est ça, en fait, c'est cette vague là, donc c'est la vague canadienne avec Toronto et Vancouver. Faut savoir que c'est une époque où donc on est post JO de Barcelone. Et Stern réfléchit à une expansion. Comment il s'est dit, bon, voilà, mon produit cartonne aux États-Unis, c'est bon, on a conquéri tout ce qu'on voulait conquérir aux États-Unis, tu vois. Il reste plus de gros États qui n'a pas son équipe ou qui n'est pas couvert par certaines franchises, tu vois. Vraiment, ils ont réussi même à conquérir des États qui n'étaient pas forcément férus de basketball. Hein. Je pense au Texas ou des États comme ça qui, à la base, le basket s'en foutent un peu, tu vois. Et donc, ils ont réussi leur coup. Et là, Stern, il se dit, bon, là, il faut vraiment, tu sais, 8 coups d'avance sur tout le monde. Il faut vraiment qu'on réussisse à globaliser notre produit et à conquérir l'international. Et dans cette optique-là, il réfléchit même à une époque à mettre une franchise à Londres, une à Berlin, une à Madrid, une à Barcelone. Vraiment, il pense vraiment à mettre des franchises en Europe. C'est assez ouf quand on y pense.
C'est clair. Ce sera le point, je pense, final du podcast. Mais ouais, pour le coup, c'est vrai qu'il se mouille sans trop se mouiller. Tu vois, j'ai envie de dire, il va pas trop loin, il va chez le voisin. Toronto, c'est de l'autre côté du lac. Mais bon, pour le coup. Et le Toronto, ça a plus tenu du coup, parce que Vancouver, ils ont été obligés de bouger à Memphis.
Mais de base, en fait, de base, le projet est casse-gueule à Grizzlies. Enfin, aux Grizzlies. En fait, ce qui se passe, c'est que. Donc, comme je te dis, ils voulaient aller en Europe, mais ils se sont rendus compte que logistiquement, c'était pas possible. Tu vois genre faire des allers-retours pour les équipes entre Londres et Los Angeles, bon, ça allait vite être casse-gueule. Et donc, ils se sont dit, bah vas-y, go attaquer le marché canadien. Surtout que les Raptors, en fait, avaient un plan béton, tu vois. Vraiment, eux, pour le coup, ils avaient vraiment étudié à donf le truc. En plus, il y avait plusieurs gars qui étaient sur le dossier. Et avant, en fait, les gars qui ont obtenu ce dossier-là et qui ont réussi à intégrer la ligue, avant ça, il y avait déjà la Canadian Leaf Sport Entertaining, je ne sais plus quoi, là. Ceux qui ont l'équipe de baseball l'équipe de NHL de Toronto qui était déjà sur le dossier. Enfin bref, du coup, c'était un peu un serpent de mer, les Raptors. Et quand ils ont réussi à débloquer le truc, Stern, il a dit, bon, écoute, là, il nous faut deux équipes. On va faire venir deux équipes en même temps. Et donc, les Grizzlies se sont un petit peu créés un peu comme ça à la hâte au dernier moment. Donc vraiment, ça a pu être du cul dès le départ, quoi.
C'est clair. Après, ouais, comme tu l'as dit, Toronto, c'est quand même c'est une ville qui est bankable. On part souvent, évidemment, de Montréal, d'Ottawa, parce que capitale, mais Toronto, pour moi, beaucoup d'amis qui sont allés, on sort un peu du contexte, mais c'est vraiment c'est une ville très solide, sportivement parlant, ou même économiquement parlant. On est sur une top ville, niveau de vie, etc. Donc, c'est, comme tu l'as dit, voilà, le dossier était béton déjà en 95.
C'est quand même différent, tu vois. Genre, c'est pas non plus la ville de Drake comme c'est aujourd'hui. Hein.
Non, c'est clair.
Je pense qu'on le voit bien dans le documentaire, le Carter Effect, même si c'est un peu romancé. À l'époque, enfin, on va voir, ça se passe pas très bien pour les Raptors. Hein, il y a plein de joueurs qui ne veulent tout simplement pas aller s'exiler, qui ne veulent tout simplement pas aller s'exiler de l'autre côté de la frontière, quoi.
Bah, on connaît un peu le préjugé des Américains sur le Canada. Ils ont différentes monnaies, ils parlent pas pareil. On le voit souvent dans les séries, mais ouais, comme tu as dit, j'étais en train de chercher le bilan des premières années de Toronto, parce qu'on en parlait souvent de la difficulté. Voilà, première année, c'est 25% de victoires. Ensuite, 36. La troisième année, ils font un joli bilan de 16 victoires pour 66 défaites. Donc voilà, il va falloir attendre les années 2000 pour seulement passer au positif. Donc oui, il y a quand même eu une difficulté de transition, pas de transition, mais de démarrage, quoi.
Ouais, et puis ça s'explique par plusieurs choses. Ça s'explique parce que les propriétaires de franchise, en fait, il faut savoir qu'il faut l'aval des propriétaires de franchise pour intégrer la ligue. Il y a une sorte de comité des propriétaires qui se réunit et ils disent, bon, est-ce qu'il y a des gars qui peuvent intégrer la ligue? Et en fait, il y a les propriétaires, notamment des Nets, des Sixers, qui ont dit ok, ils peuvent intégrer la ligue, par contre ça va nous faire de la concurrence déloyale, tu vois, parce que eux ils avaient des franchises qui puaient et ils se sont dit s'il y a des franchises qui arrivent et qui puent encore plus que nous, on va se faire enfler, quoi. Et donc pour intégrer la ligue, les Raptors et les Grizzlies, ça doit payer des sommes records, et surtout ils sont privés de first pick pendant 3 ans. Donc par exemple en 96, normalement le first pick doit revenir aux Grizzlies. Donc normalement, Iverson, il doit aller à Vancouver, tu vois. Mais vu que du coup les Grizzlies sont privés de first pick, bah le first pick il revient à Philly. c'est plein de petits trucs comme ça. Et au bout d'un moment, David Stern, enfin les Grizzlies, ça va vraiment se casser la gueule. Et David Stern, il va être obligé d'accepter que le gars qui vient de racheter la franchise et qui avait dit non, mais vous inquiétez pas les gars, je bougerai pas la franchise. Le gars va un peu bidouiller ses comptes et faire croire. Enfin bref, il va dire qu'il a perdu une certaine somme d'argent sur 6 mois écoulés, ce qui n'a jamais été prouvé. Et David Stern va lui dire, bon bah ok frérot, t'as le droit de délocaliser la franchise, et c'est comme ça que les Grizzlies sont morts.
Ils ont bougé à Memphis en 2001, ouais. C'est vrai que bon, il lui a un peu forcé la main, mais quand tu vois les résultats, pareil, je donne le reste pour. Pour info, les premières années de Vancouver, c'est 15-67, 14-68, 19-63, 8-42 en 99. Donc voilà, encore. Et du coup, c'est sûr, privé de first pick, quand tu vois les équipes process ou celles qui accumulent un max de pick, et là, tu ne pouvais pas l'avoir, ça te rend vraiment la tâche plus difficile.
Ouais, puis pour finir sur la parenthèse Grizzlies, moi, je pense que c'est un truc qui a fait grandir Stern. Dans le sens où il s'est dit on leur a vraiment pas donné l'occasion de briller aux Grizzlies, tu vois. Déjà on les a fait se délocaliser au bout de 6 saisons, on a tout fait pour que finalement tout se passe mal, et c'est pour ça je pense que le forçage avec la Nouvelle-Orléans plus tard, je pense qu'il vient de là, parce qu'ils voulaient pas un nouveau fiasco à la Vancouver Grizzlies.
Très probable. Du coup, j'allais te lancer dessus. On en parle rapidement. 2004, les Bobcats de Charlotte, devenus Hornets de Charlotte, etc. La dernière franchise de cette ligue, du coup, à 30 équipes.
Je sais pas, tu t'en souviens, toi, de cette expansion?
Bah, honnêtement, pas des masses, parce que j'ai commencé vraiment à suivre la NBA, je crois, c'est 2005-2006. Et du coup, ouais, j'étais vachement plus jeune, et tu vois un peu cette équipe, tu dis, ouais, bon, d'accord, c'était un peu compliqué à comprendre au début. Mais non, très peu de souvenirs. Toi ?
Non, mais vraiment pas du tout. Du coup, ça vu que c'est des années où j'ai commencé plus ou moins pas à suivre, mais en tout cas à regarder ce qui se passe. C'est vrai que non, moi non plus, je m'en souviens pas des masses. Bon, après, on va pas se le cacher, cette franchise-là, elle naît en réaction au fait que ça se passe très mal, parce que du coup, les premiers Hornets de Charlotte ont été obligés de déménager à Nouvelle-Orléans à cause d'une histoire de viol, en fait, tout simplement, et de harcèlement sexuel de la part du patron par rapport à une employée. Et le patron de la franchise était persona non grata à Charlotte. Du coup, il a dû s'exporter autre part. Il s'est exporté à la Nouvelle-Orléans. Et à la Nouvelle-Orléans, ça a été la cata parce que c'était vraiment pas un territoire de basket. Hein. Finalement, à part LSU, il n'y a aucune équipe qui a vraiment réussi à s'implanter là-bas. Parce que déjà, il y avait déjà eu d'autres essais, notamment en ABA,
le Jazz,
le Canners. Et le Jazz, tu as tout à fait raison. Et finalement, c'est le grand serpent de mer. Je pense qu'un jour, on fera un épisode spécial sur la Nouvelle-Orléans, le guide de ce qu'il ne faut pas faire quand vous créez une franchise. Et du coup, c'était un gros bordel. Et en fait, il a été décidé de remettre le nombre d'équipes à 30, parce qu'il a été longtemps à 29, et en créant une autre, enfin, en remettant une franchise à Charlotte, et en essayant de... Et finalement, au bout d'un moment, c'est même la NBA qui va se retrouver propriétaire, plus ou moins propriétaire des
Pelicans. Ouais. Garant qui va même, on en a discuté pendant la période All-Star Game, qui voilà va tout faire quand même pour pousser un peu le petit bébé, le minot, de voilà ramener un peu de shine, essayer quand même de stimuler sportivement la franchise à l'époque. Et du coup, je trouve ce thème NBA est très intéressant parce que il est lié à beaucoup de choses. Par exemple, tu vois, ce fait d'avoir 30 équipes est aussi lié à un débat très fort qu'il y a depuis quelques années de revoir l'agenda NBA et de revoir le format des conférences et des divisions. On avait notamment Mark Cuban qui en parlait énormément, qui disait le format à deux conférences de 16, ça marche plus, de 8, il faudrait faire une ligue uniquement à 16. Le fait que parfois, voilà, une équipe à l'Est ou à l'Ouest se farcisse 4 fois, une équipe qui est vraiment compliquée à jouer, et en fait, les autres adversaires, tu les rencontres que 2 fois. Et il y a encore cette idée toujours d'expansion, potentielle expansion, qui rebattrait un peu les cartes, car en fonction des villes, il faudrait revoir le format Est-Ouest.
Et c'est pour ça d'ailleurs que quand tu regardes la dernière expansion, donc c'était en 2004, et donc ça va faire 20 ans qu'il n'y a pas eu de nouvelle équipe dans la Ligue. On ne compte pas OKC comme une nouvelle équipe, hein, comme on l'a dit en début de podcast. C'est la plus longue période toute époque confondue de la NBA sans expansion. Donc ça veut dire que la NBA à 30, c'est un truc qui est là depuis presque 20 ans en fait. Et comme pour rebondir sur ce que tu dis en fait, ça veut dire si on ajoute 2 nouvelles équipes, parce que je pense que le but c'est garder en mode pair, ça veut dire aussi rebattre complètement le calendrier. Ça veut dire revoir les systèmes de conférences, revoir plein de choses comme ça, en fait.
Ouais, je sais pas toi, mais moi, c'est un projet qui... Enfin, vraiment quelque chose qui m'intéresse, parce que au moins l'idée d'avoir un calendrier revisité, on parle souvent des joueurs qui demandent à l'alléger, de pas forcément bouger autant. On peut l'étaler un peu plus sur le temps si tu t'enlèves, par exemple, de la pré-saison, etc. Mais aussi, juste ce concept de... on va dire... T'es les Lakers, tu te farcis les Golden State Warriors et les Clippers 4 fois, et après toutes les autres équipes 2 fois. Et quand t'es à l'Est, par exemple, tu es une équipe, on va dire les Sixers, et tu dois te farcir les Knicks 4 fois, ou tu vois, enfin, il y a une question d'équité un peu.
Je trouve que, alors là, tu fais le fanboy, hein, c'est pas comme si vous farcissez les Kings 4 fois, vous aussi. Hein.
Non, bien sûr que non, mais on a souvent eu ce débat Est-Ouest qui s'est plus ou moins bien équilibré, je trouve. Mais moi, alors on va enlever le côté fanboy, j'ai pris l'exemple bien sûr de ma franchise pour que ça soit plus parlant, mais moi je suis pour l'idée de les équipes elles s'affrontent toutes entre elles le même nombre de matchs, point barre. Il n'y a pas de 4, 2, voilà. Et ça relance aussi un autre débat qui a souvent été discuté, c'est celui de la délocalisation, puisqu'on a eu l'exemple de Seattle pour Oklahoma. On avait souvent eu quand même des grosses rumeurs de Sacramento, quid ouais. des Kings, vont-ils délocaliser? Ils ont même eu un petit peu chaud aux fesses, sur les 10 dernières années. Et
récemment, Minnesota.
Moi, tout Minnesota aussi, ouais,
moi, je pensais que Minnesota, mieux, ça allait sauter.
Ouais, avec le rachat.
Ouais, moi, je pensais vraiment que ça allait sauter et que ça allait atterrir à Seattle. Mais là, ça va mieux parce que du coup, l'équipe marche mieux. Donc, fatalement, de toute façon, c'est pas sorcier. Hein. Si t'as une équipe avec des bons résultats, c'est rare qu'elle bouge. Quoi.
C'est ça. Et en fait, c'est. On est vraiment en train de jongler entre deux choses, parce que je pense que la délocalisation, on en a souvent entendu parler, et ça paraît être la solution un peu plus viable, parce que Silver l'a un petit peu dit, mais un peu caché dans le subtexte, tu vois, c'est si on rajoute des équipes, ça va diviser encore le marché. Et il l'a pas réellement dit, tu vois, mais on est dans une ère où il y a des équipes fortes, des marchés forts avec deux trois superstars dans chaque équipe, et il t'a un peu fait comprendre que voilà, si tu dois rajouter des équipes, bah je vais prendre l'exemple débile, mais est-ce qu'on aurait eu Kyrie, KD, James Harden dans la même équipe? Est-ce qu'on aurait tous ces noyaux de superstars?
Mais est-ce qu'on va ouais, après, pour rebondir sur ce que tu dis, moi je suis pas sûr qu'on risque d'avoir encore beaucoup de super teams à l'avenir.
Non plus, on va plus redevenir un duo. L'ère où la NBA avait son équipe, sa superstar, je pense que ça sera plus trop le cas non plus. Mais c'est sûr que cette idée de gros trio, elle n'existerait peut-être pas. Et lui, il a pas l'air vraiment pour l'idée d'avoir à éclater un peu tout ça aussi.
Ouais. Après, pour contrebalancer un peu tout ça, moi je trouve que la NBA n'a jamais été aussi équilibrée depuis des années en fait. Hein. Là, en fait, il y a pas eu de back-to-back depuis plusieurs années, mec. Tu te rends compte? Alors que les années 2000 sont quasiment faits que de back-to-back ou d'équipes qui gagnent, enfin comme les Spurs, hein, année impair. Donc c'est très rare hein, finalement des équipes qui succèdent. On se croirait de retour dans les années 70, tu vois. Et là pour l'année prochaine, bon tous les moves ne sont pas encore faits, mais bien malin celui qui arrivera à dire qui prendra la succession des Warriors, tu vois.
Non, c'est clair.
Donc je pense que l'équipe ça se rééquilibre. Comme t'as dit, le fossé entre l'Ouest et l'Est aussi en fait se rééquilibre. Là très honnêtement, est-ce que tu me dis est-ce que l'Ouest est meilleur que l'Est? J'ai tendance à dire que oui parce que par habitude, mais est-ce que
c'est Keldon Johnson aux Spurs aussi quand même.
Ouais, c'est ça. Il y a Keldon, il y a Primo, attention. On va tanker hein. Et donc il y a ça et en même temps on dit oui mais ça rediviserait le marché. C'est bon avec on voit avec l'explosion du cap tous les ans, toutes ces choses là je pense que le marché il se porte très très bien et c'est pas parce que tu le redivises avec deux parts en plus que ça va changer grand chose. Et en plus, dernier point, jamais les franchises NBA n'ont eu un réservoir de joueurs aussi conséquent, parce que maintenant, enfin à l'époque quand on se dit qu'il faut intégrer les joueurs de la NBA, bon, le réservoir il se limite aux États-Unis. Là maintenant, le réservoir, il est partout à travers le monde, tu vois.
Bah c'est le monde, c'est ça.
Donc il y a plus de joueurs, il y a plein de tudes, et en même temps, on voit que moi, ce qui me fait dire que l'expansion arrive d'ici quelques années, c'est que Silver, il commence à toucher un petit peu au calendrier. Bon là, il y a la fameuse histoire de plus faire de back-to-back, et ensuite il y a le fameux, je sais pas si t'as vu passer ça, le fameux tournoi de mi-saison.
Ouais, j'ai pas trop envie d'en parler, je t'avoue, mais ouais, j'ai vu.
Mais du coup, pour moi, c'est un signe qu'il se passe quelque chose, tu vois, parce qu'il commence à remanier le calendrier. Et comme tu l'as dit, si on est resté à 30 équipes pendant aussi longtemps, c'est parce que du coup, la NBA avait trouvé sa formule avec son calendrier, tu vois. Et là, pour le coup, s'il commence à bouger tout ça, pour moi, ça veut dire qu'il y a deux nouvelles équipes qui vont arriver, au minimum.
Du coup, en parlant de ces nouvelles équipes, superbe transition, je vais te proposer une petite liste de marchés potentiels. Mm-hmm. Il y en a évidemment que tu connais. Metz. Je t'en propose... ouais, voilà, je l'avais, c'est numéro 1. Tu m'as cramé mon numéro 1, merci. du coup, ouais, j'en ai à peu près, j'en ai 3 développés qui sont bien ancrés. Tout le monde s'attend tôt ou tard à les voir, mais j'en ai aussi 3 et ça va nous amener aussi à un autre débat. Du coup, bah, la première, évidemment, Seattle. C'est la plus populaire, c'est le marché le plus imposant. Ouais. Toujours sans équipe NBA. On se rappelle quand même, voilà, les Supersonics, que tu les regardais à l'époque ou non, ça a quand même marqué une époque, je trouve.
Mmh,
au-delà du maillot, au-delà du logo, voilà.
Ah, si, ça joue
énormément.
Le maillot vert, et puis les highlights de Kemp,
de Kemp, Gary Payton qui te crache la gueule, il y a énormément de choses. Et du coup, pour remettre un peu les choses dans son contexte, la délocalisation à l'époque, tu te rappelles pourquoi elle est arrivée?
J'ai su. C'est un problème de sous.
C'est l'incapacité de faire une nouvelle enceinte sportive.
Ah oui, c'est vrai, bien sûr. Oui, t'as raison. La salle était complètement délabrée.
Donc, fallait refaire le complexe sportif Marcel Cerdan et ils n'y arrivaient pas. C'est un peu con quand tu vois ce que le Seattle est devenu et qu'ils avaient un certain Kevin Durant. Ça c'est un autre débat, mais voilà, du coup ça fait des années que tout le monde pousse.
Ils sont draftés Westbrook en plus, hein. Enfin, ouais, Westbrook est drafté par Seattle, même si du coup ça part directement à...
Mais Westbrook, il a
une casquette Seattle, hein, quand il est drafté.
Et ouais, il y a une énorme fanbase, c'est une ville très sportive. Il y a historiquement un berceau de joueurs qui est natif de Seattle. Donc ça fait énormément de choses qui cliquent et on sent que ça fait un moment que ça pousse, que ça pousse, que ça pousse. Candidat numéro 2.
C'est un territoire abandonné, hein, plus ou moins par la Ligue. C'est un territoire assez vierge. Hein. À part Portland, il n'y a pas grand chose dans le nord-ouest des États-Unis. Hein.
Bah non, vraiment, t'es dans le corner nord-ouest des États-Unis. Vraiment, y a rien d'autre, quoi.
Et pour faire un petit transition, parce que je pense pas que tu en parleras de celle-ci, mais Vancouver, tu vois, parce que j'ai vu que Stern à la fin de sa vie et Silver, ils en ont parlé aussi de Vancouver en disant, comme je te disais, c'est le grand regret. Et qu'ils aimeraient bien peut-être mettre une autre franchise au Canada, blablabla. Très honnêtement, s'ils remettent les Sonics, faut pas s'attendre à avoir Vancouver. Et moi, je miserais plus sur les Sonics que Vancouver, quoi.
Je pense pas non plus. J'ai encore, du coup, le candidat numéro 2, Las Vegas.
Ah bah c'est le candidat... Las Vegas aura une franchise NBA. Hein, voilà, c'est pas de la spéculation, c'est un fait.
C'est quasiment acté. C'est quand même une ville qui a un bon gros pied dans, j'ai oublié l'expression, un pied dans la porte, ou je sais plus, c'est terrible. Et du coup, ouais, c'est dans les rumeurs depuis un bon moment, et il y a quand même beaucoup de choses dans la liste qui fait qu'on peut y penser. C'est un événement, c'est une ville qui accueille la Summer League. Mm-hmm. C'est une ville qui a connu le All-Star Game en 2007. En 2001, Las Vegas était dans la shortlist pour récupérer les Grizzlies de Vancouver, du coup.
Ouais.
C'est un endroit, encore pareil, tu vois, dans l'idée, les joueurs en parlent énormément, il fait bon vivre, il fait chaud, le soleil, machin, etc.
Les casinos,
la moulaga à fond. Du coup, pour
juste rajouter... Je vais James Harden en franchise player de l'équipe de...
et Lou Williams. du coup, pour rajouter une couche à ça, LeBron James a dit un jour, a dit récemment qu'il est remonté au créneau, il a dit « j'aimerais bien devenir propriétaire d'une franchise ». NBA un jour, et il a dit viva Las Vegas, enfin, il n'a pas vraiment dit ça, mais voilà, de préférence, ça serait là-bas. Moi, je t'avoue, sur vraiment le point personnel, j'ai pas envie d'avoir une franchise sportive dans une ville comme Las Vegas.
Ah, moi non plus.
Parce que il y a déjà, bon, bah, pour la ville en elle-même, il y a déjà énormément de choses. Ça ne ferait que rajouter un peu de rivalité en, on va dire, sur ce gros coin Californie, Arizona, tout, qui est déjà bien blindé, Colorado, tout ça. Mais moi, je suis propriétaire d'une franchise, je mets pas mes joueurs à Las Vegas.
Ouais, c'est sûr. Mais après, faut savoir que du coup, en fait, c'est un plan qui vient de pas de la mairie actuelle de Las Vegas, mais de la mairie précédente, sachant que la mairie actuelle est un prolongement de la mairie précédente. Et en fait, c'est dans leur idée de show permanent. Tu sais, je pense à, enfin, alors je vais faire un parallèle alambiqué, mais bon, c'est pas grave. Tu sais, quand Céline Dion, elle était à Las Vegas et qu'elle faisait concert quasiment tous les soirs, ben là, c'est la même idée. Hein, c'est ajouter encore une attraction à Las Vegas en ayant des équipes professionnelles. Ça a commencé, je crois, avec l'équipe de hockey qu'ils ont réussi à délocaliser. Ensuite, il y a eu l'équipe de San Antonio. Il y a eu les stars qui sont devenus les aces en WNBA. Et c'est la suite logique d'avoir une équipe de basket. En plus, Las Vegas, c'est une ville monde. Du coup, la NBA étant la ligue qui s'exporte le mieux à l'international, je trouve ça tout à fait logique pour la mairie de lorgner là-dessus. Et pour la NBA, c'est déjà l'assurance d'avoir des infrastructures incroyables, parce qu'à Las Vegas, il y a des infrastructures incroyables. Et en plus, c'est aussi tout ce côté un peu... Enfin, je veux dire, si tu mets une franchise à Las Vegas, ton identité, elle est déjà toute créée, tu vois. T'as pas besoin de galérer comme il y a pu y avoir, je sais pas, à San Diego avec les Clippers ou des choses comme ça, tu vois. Genre, enfin, pour moi, ça paraît... Je dis pas que c'est ce que j'ai envie de voir, mais ça paraît le choix le plus probable. Et en plus de ça... c'est vraiment, j'ai l'impression qu'avoir une équipe de NBA à Las Vegas, c'est vraiment le sommet du sport à l'américaine. C'est du sport entertainment, du sport spectacle.
Là, vraiment, c'est le stéréotype plus.
Ah bah là, c'est pas une équipe où il y aura des vrais supporters, tu vois. T'as pas les ultras dans le cop du FCMS. Là c'est vraiment des gars qui viennent là entre deux, enfin bourrés entre un mariage avec Elvis et une séance de casino. Enfin vraiment, c'est. Mais bon.
Ouais, je vois bien l'image de la soixantaine botoxée avec sa petite assiette de bœuf de Kobe sur lit de caviar avec des feux d'artifice dedans. Mais je reste toujours bouche bée que tu aies réussi à placer Céline Dion dans un podcast.
Bah écoute, on est là. Hein.
Ouais. Du coup, tu m'as un peu spoilé le troisième candidat que j'avais, c'est San Diego. Du coup, et donc tu vois, on reste encore dans cette zone géographique des États-Unis. Pareil, San Diego, il y a un gros passif. Les San Diego Rockets, les Conquistadors, les Sages en NBA, t'as les San Diego Clippers.
Ouais, ça s'est cassé la gueule.
Ouais, ça s'est cassé la gueule. Et en fait, c'était le CEO des Rockets à l'époque. Voulait délocaliser là-bas, mais il y avait petit souci fiscal qui, du coup, n'est pas arrivé. Mais voilà, on reste encore dans ce, j'ai presque envie de dire, ce croissant fertile, tu vois, des États-Unis. Donc voilà, c'était les trois qui semblent le plus probables.
J'ai pas envie de mettre ma main à couper, mais je la mets quand même. Jamais de notre vie, au jamais, on ne verra une équipe à San Diego. C'est pas possible.
Je pense pas non plus, mais c'est celle encore, tu vois, le côté passif.
C'est une ville de petits vieux, tu vois. C'est une ville de petits vieux. Les mecs, ils vont traîner des pieds hein, pour y aller, hein, la Californie, il fait beau, il y a le soleil, il y a la mer. Franchement, non, je pense pas. Et puis, comme tu dis, en fait, la Californie, c'est tellement blindé d'équipes. C'est juste pas possible. Il y a deux équipes à LA. T'as les Kings, t'as les Warriors. À côté, si tu rajoutes une franchise à Las Vegas, Las Vegas, c'est quoi ? C'est à 3 heures de route de Los Angeles ? Non, mais c'est pas possible, tu vois.
J'en ai aucune idée. Je regarde du coup rapidement Los Angeles, Las Vegas, Los Angeles, tac, Las Vegas. Ouais, on apprend la géographie en même temps, c'est pratique. On est en voiture, on est à 4h14, c'est pas mal, je te le concède avec les applaudissements. Du coup, j'en ai encore deux autres qui me paraissent déjà moins probables, mais on peut en entendre parler. Ouais. Dans cette idée, tu vois, de encore Toronto, pourquoi pas Montréal ?
Ouais, le Montréalais en moi a très envie d'avoir une franchise à Montréal, mais...
Ça me semble nettement moins probable. Et du coup, un autre candidat qui, pour le coup, pourrait passer devant Montréal pour moi, c'est Mexico City.
Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Moi, c'est mon choix.
Parce que les Latino Night, parce que les Global Games, parce que toute la communauté hispanophone, ça me paraît déjà bien.
La Griffin.
Ouais, ouais. Hola, hola, l'Espagne. Et t'as Luca Doncic qui est hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Et ouais. ridiculisé.
Oh, j'avais bien ri. Ouais, ouais, moi je pense très sincèrement que... Alors, ça ne sera pas pour tout de suite, mais si expansion internationale il doit y avoir, je pense que ça va aller lorgner du côté du marché latino. Et Mexico me paraît être le choix le plus évident. En plus, il se passe toujours plein de trucs. Il y a toujours les Global Games à Mexico. Puis franchement, là, pareil, tu vois, t'as une identité... Enfin, tu vas aller conquérir un nouveau marché dans le sens où tu vas aller conquérir ou en tout cas fidéliser, pérenniser le marché latino. Moi, ça me... Puis on sait très bien que les latinos sont fans de basket, tu vois. Pour moi, ça me paraît être un choix plutôt évident. Après, c'est vrai que tu te retrouves avec d'autres problématiques, notamment les problématiques de sécurité, les problématiques de transport. Parce que bon,
ouais, la logistique, ça reste quand même costaud, même si des fois ils passent d'une côte à l'autre du pays. Mm-hmm. Ça reste quand même quelque chose.
Enfin, mine de rien, Mexico, c'est pas la porte d'à côté. Surtout si tu viens. Bon, après, tu me diras, c'est pas la porte d'à côté de faire un New York, Los Angeles. Mais bon, dans l'idée, tu comprends. Hein, mais bon, moi, je pense vraiment que un jour, il y aura potentiellement une franchise à Mexico.
Du coup, Vincent, t'en as parlé un petit peu. On va se mettre dans une projection utopique, plus.
Europe.
La NBA s'exporterait-elle un jour
en Europe,
au vieux continent? On sait qu'ils ont un souci de visibilité, on va dire. C'est pas un souci, mais ils ont vraiment cette envie d'être partout. Tu vois, ouais. Ils ont quand même misé énormément sur la Chine, l'Inde, sur les dernières années. On a encore, voilà, on a discuté de cette idée de Global Games un peu de partout. On a des matchs NBA qui sont revenus à Londres. On a des matchs NBA qui sont revenus à Paris.
Ouais.
T'as parlé par le passé de cette idée de mettre un jour une franchise à Londres, d'en mettre une à Berlin, à Barcelone, quoi que ce soit.
Madrid.
Et de l'autre côté, justement, on voit quand même ces franchises d'Europe, d'Euroleague. Je vais peut-être plus cibler un peu l'Euroleague, car ça reste le produit le plus travaillé, le plus solide en Europe, avec des réelles prétentions. On a quand même beaucoup de joueurs américains qui viennent, pas seulement finir leur carrière, prendre un chèque, mais voilà, on a quand même des joueurs qui font le chemin retour, qui viennent s'exporter et qui s'exportent bien en Europe, qui ont quand même des revendications salariales qui restent plus que correct. Je veux dire, voilà, on a l'exemple d'un Mike James qui peut signer, qui peut re-signer à Monaco, et on parle en millions d'euros. Regardez le contrat de Nikola Mirotic, Nando De Colo, voilà. Personnellement, ça serait dingue de voir un jour Chicago Bulls Real Madrid. J'ai énormément de mal à y croire pour juste cette question de transport, de logistique. Mais de l'autre côté, ce serait énorme. Si on garde cette idée du Real Madrid, du Barcelone, qui sont des énormes marchés, tout ce qui serait vente de maillots, la confrontation, les stars NBA, les stars européennes. Moi, je reste... j'étais comme un gosse quand j'ai vu ce match d'exhibition Oklahoma Thunder Real Madrid, où c'est parti en prolongation, Serge Lul versus Russell Westbrook, Young Luka Doncic. C'était vraiment un match de dingue.
D'ailleurs, c'est le Real qui gagne ce match, non?
Et il me semble bien, oui, sur un score de dingue, genre 147-146 ou quoi que ce soit. Alors on va regarder rapidement Real Madrid OKC Exhibition Game. Pa-pa-pam.
Je me souviens, il m'avait marqué ce match de pré-saison, je sais pas pourquoi, mais je me souviens l'avoir vu.
Alors, 3 octobre 2016, prends ton temps, ouais. Alors, Thunder 137, Real Madrid 142.
Ok.
Et je regarde vite fait le box score. On avait Victor Oladipo, 34 points, Russell Westbrook, Enes Kanter, 29 points, 10 rebonds.
Sabonis aussi au Thunder à cette époque-là.
Ouais, André Robertson, Kyle Singler, Elsan Ilyasova, Kyle Singler qui joue 24 minutes, incroyable.
Quel enfer.
Franchement, c'est un moment qui m'avait marqué. Je me dis, tu sais que je regarde énormément le basket européen, l'Euroleague, que j'aime énormément, et moi, ça me ferait kiffer. Tu prends 10 équipes, tu vois, même pas 10, 5, 6 solides, et d'avoir des affrontements comme ça, plus que ces matchs de pré-saison où un coup je crois qu'ils vont aller à Tel Aviv cette année, j'ai un doute, mais il me semble qu'ils partent jouer le Maccabi ou l'Apoel Holon ou quelque chose comme ça. Donc, on est vraiment dans de l'hypothétique plus-plus. Ça me paraît, comme je l'ai dit, assez irréel pour des questions logiques de logistique, de transport, de, alors, de déplacement, etc. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses?
Je vais te faire mousser. Je pense que il y a moyen. Enfin, je vais te mettre des étoiles dans les yeux, puis ensuite je vais te les enlever. Alors, je pense très pro. Enfin, déjà, s'il doit y avoir une expansion en Europe, s'il doit y avoir des franchises en Europe, ce n'est pas sur une ligue ça serait pour une NBA Europe. Ça serait pas une NBA, tu vois. Genre avoir des paris versus New York, ça serait pas des matchs de saison régulière, tu vois. Par exemple, on peut imaginer, je sais pas, d'avoir une NBA globalisée où le système de conférence marche par continent. Ça pourrait très bien se faire. En plus, moi, ce qui me fait me dire ça, c'est que déjà, c'est un produit globalisé, comme on l'a dit plusieurs fois dans le podcast. La vidéo, c'est ses déformations professionnelles. Et en plus, moi, ce qui me fait dire ça, c'est le revival de ce qu'on appelle la NFL Europe. Il y a plusieurs années de ça, donc à la fin des années 90, la NFL a créé une section européenne qui s'appelle la NFL Europe, qui était plus ou moins l'équivalent de... Pas vraiment de la G-League, parce que bon, la NCAA était bien meilleure que la NFL Europe, mais plus ou moins un centre de développement pour les joueurs européens, notamment... Il y avait plusieurs joueurs français, je pense à Marc-Angelo Souma, à Philippe Gardant, qui ont joué en NFL Europe. Et c'est un projet qui s'est rapidement cassé la goule, mais tel le phénix, qui a ressuscité l'année dernière. Et je me dis que si la NFL commence à regarder un petit peu du côté de l'Europe, pourquoi la NBA ne le ferait pas, tu vois? Et pour moi, ça me paraît complètement logique de se dire d'avoir des franchises en Europe, d'avoir une grosse équipe à Paris, une grosse équipe à Berlin, une grosse équipe à Madrid, une grosse équipe à Barcelone, une équipe à Rome. Bref, t'as compris l'idée, une équipe à Londres. Et ensuite, par contre, ce qui me fait dire que ça risque de ne pas arriver, c'est que l'Euroleague a compris ça. Et a compris, je trouve qu'ils ont compris quel rôle ils devaient avoir. Et par exemple, si on voit maintenant l'Euroleague qui devient presque, entre guillemets, même si ce n'est pas le cas, une ligue fermée, avec des équipes qui sont, peu importe leur résultat en championnat, qui sont automatiquement qualifiées pour jouer l'Euroleague. Et on sait qu'on retrouve régulièrement assez les mêmes qui arrivent au play-off, tu vois.
Oui, tu retrouves le noyau principal. Il y a juste ce système de montée avec deux wildcards qui sont souvent donnés. Mais sinon, voilà, tu gardes plus que 80% du groupe fermé, oui, c'est ça.
Et finalement, je me dis que en faisant ça, l'Euroleague a pris en compte le risque d'une potentielle NBA Europe et a occupé le marché avant. Et donc maintenant, je ne sais pas du tout si... vu qu'ils ont déjà ça, en fait, vu qu'il y a déjà une offre comme ça en Europe, je ne sais pas du tout si la NBA arrivait demain et mettrait des franchises, si les joueurs suivraient, tu vois.
Je suis bien d'accord avec ton idée. C'est pour ça que j'ai vraiment commencé en parlant un peu de ce côté rêve d'enfant, etc. Mais même au-delà de la logistique, ça me semble très peu probable parce que le modèle Euroleague, Eurocup marche déjà bien de lui-même. Et on a vu déjà la NBA se positionner ailleurs. Alors la Chine, ça s'est avéré un peu infructueux parce que la Ligue en elle-même s'est bien refermée. Elle a limité le nombre de joueurs étrangers. Je pense que la Chine a vraiment cette envie de devenir the place to be, mais avec des joueurs 100% produits du terroir. Et on a vu en même temps, par exemple, la G League qui se développe bien avec la Ligue Ignite, qui devient une potentielle option alternative à la NCAA pour des joueurs qui veulent déjà devenir un peu plus professionnels et être payés. Et on a vu la NBA mettre quand même une bonne pièce sur la NBL, par exemple.
Ouais, aussi. Ouais.
Et ça, vu que c'est un produit qui est déjà anglophone, où par exemple voilà les franchises et les scouts gardent un œil sur les jeunes prospects à développer. On a nos Français par exemple qui sont partis là-bas jouer un an pour se montrer un peu plus parce qu'ils savent que la NBA regarde plus. L'Europe reste quand même un peu, je vais pas dire dénigrée, mais ça reste quand même quelque chose à part. On est plus sur actuellement une tendance.
je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je pense que maintenant c'est acté, même dans même chez les pires Américains qui tu sais vraiment America et fuck le reste quoi. Même chez eux, c'est acté quand même que l'Euroleague est la deuxième meilleure ligue au monde. Hein. À l'époque où les gens ils pensaient que la NCAA était meilleure que l'Euroleague et tout, non mais je pense que là c'est tout le monde le sait, tu vois. Donc l'Europe reste dénigrée plus ou moins. J'ai envie de te dire oui, mais en même temps. Moi, je trouve vraiment que l'Euroleague a pris ses lettres de noblesse, quoi.
Ouais, et puis même s'ils le savent pas, je pense que, tu vois, on repart dans un débat opposé. Je pense que l'Euroleague en a rien à faire.
Ouais, bien sûr. Parce qu'ils occupent leur terrain et ils le font très bien. Et pour,
ils le font
pour,
très bien, tout se passe bien. Les sous-sous, ça fait que continuer. Donc, bon, voilà.
Ouais, et puis en plus, t'as des mecs comme Parker qui investissent avec l'Asvel et tout. Moi, je pense qu'il y a plus de, il y aura plus de ça, tu vois. Genre, si tu voulais une franchise NBA Europe, t'as juste à investir dans un gros club, et injecter beaucoup de sous, tu vois. Par exemple, un gars
On prend aussi l'exemple de Kevin Durant qui a dit que ça ne le dérangerait pas de jouer sa dernière année à Barcelone, qui est venu voir les matchs de play-off entre l'Olympiakos et Monaco et qui était vraiment comme un gosse parce qu'il a vu tous les fumigènes, les grands malades que sont les supporters grecs dans une salle de basket.
Donc, le match contre Monaco était fou.
Tout ça, ça fait que pousser vers l'avant le produit. Mais comme tu as dit, je pense qu'on reste sur quelque chose de fermé, un système qui roule très bien et qui n'a pas à se demander pourquoi on aurait besoin de
l'aide. C'est pour ça que je pense que dans l'avenir, si la NBA veut avoir un pied en Europe, au-delà des Global Games, parce que là c'est vraiment un orteil le Global Games, je pense que ce sera plus avec des partenariats avec l'Euroleague. Je sais pas trop sous quelle forme ça peut prendre, tu vois. Je sais pas, genre des équipes d'Euroleague qui deviennent les succursales des équipes NBA ou des choses comme ça, même si ça m'étonnerait. Je balance des idées comme ça, mais moi je pense que ça serait plus sous forme de partenariat avec l'Euroleague que réellement d'une NBA Europe.
Je suis d'accord, mais de toute façon, ouais, là, on est dans l'hypothétique et de la réflexion personnelle. Mais tu vois, par exemple, j'aime bien aussi ce que tu m'as dit sur le côté continent, dans l'idée de, je sais pas, on a un mois où les équipes américaines se tartinent, et après elles partent en Asie, après elles partent en Europe, en Moyen-Orient, je sais pas, tu vois, ouais, par exemple.
C'est ça, à Dubaï.
L'idée pourrait être intéressante, mais en fait, j'ai l'impression que ça va empiéter aussi sur les compétitions FIBA au final, donc. Pas sûr que ça serait quelque chose qui puisse arriver aussi.
Alors, la NBA, ils en ont rien à foutre de la FIBA, mec. Alors,
il se nomme champion du monde, bien sûr.
Alors, franchement, si ça empiète le calendrier FIBA, je verrais plus la FIBA en mode victime dire bon, bah, dans ce cas, on va.
Oui, très bien, monsieur Silver.
Bien sûr, la FIBA, ils en ont rien à foutre. Hein.
Clairement. Vincent, je pense qu'on a fait le tour de ce gros sujet. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire ou quelque chose que tu aurais oublié, et que tu voudrais ajouter ?
Non, en tout cas, pour conclure, moi, je pense qu'en tout cas, on est dans une période où il y aura une expansion d'ici, je ne sais pas trop, je ne suis pas dans les papiers d'Adam Silver, malheureusement, en tout cas, pas encore.
Comment ça ?
Je pense que d'ici 3-4 ans, on va avoir le droit à une expansion, et je pense que, comme tout le monde, hein, sans trop mouiller, ça sera Seattle et Las Vegas.
Je penche aussi du même avis. Je pense même que, tu vois, peut-être l'expérience Covid a un peu précipité les choses ou a redonné un coup de jus à ces réflexions. Je pense foncièrement qu'il faut revoir évidemment le calendrier NBA, qu'il faut revoir le format conférence division et qu'on devrait arriver.
Qu'il ne faut pas faire de tournoi de mi-saison.
Eh ouais, Dieu merci, s'il vous plaît, arrêtez vos conneries. Et qu'il faudrait. Je pense qu'on aura deux franchises. Très prochainement, je sais pas, mais on va dire sous les 5-10 ans, je pense qu'on aura de nouvelles franchises et que on aura Seattle et Las Vegas aussi sans trop se mouiller. Ouais. Je garde une petite pièce sur Mexico. J'aime bien l'idée aussi, donc à voir.
Je pense que ça, c'est plus du long terme, mec.
À voir.
Moi, je pense qu'il y a la prochaine vague, elle sera purement américaine. Et ça sera une petite vague, comme on a eu avec la vague canadienne, avec juste deux équipes. On va voir comment ça fonctionne. Et en plus, et plus tard, s'il doit y avoir une vague internationale, alors là, pourquoi pas Mexico, mais je pense que ça nous pousse à au moins une bonne décennie. Là.
Bah, les paris sont pris.
Mais c'est sûr, en tout cas, que la Ligue, comme on la connaît aujourd'hui, donc c'est-à-dire à 30 équipes avec les conférences, avec le calendrier comme ça, De toute façon, Silver, il est parti pour avoir un run à la David Stern. Il est parti pour être à la tête de la NBA pendant au moins 20 ans. Et je pense que la NBA ne sera plus la même dans 10 ans. Il va complètement la changer. Déjà, on voit ça avec... il a commencé par le All-Star Game, on s'en fout. Parce que bon, All-Star Game, voilà, on en a parlé récemment. Mais il y a aussi l'ajout du play-in. Là, il parle du tournoi de mi-saison. Je pense vraiment, très sincèrement, que dans sa tête, Adam Silver est déjà quelqu'un de très intelligent, mais en même temps, quelqu'un de très novateur qui a envie de marquer de son empreinte, en fait, la NBA. Et ça va passer par de l'expansion et ça va surtout passer par un remaniement de la NBA comme on la connaît, donc par le calendrier et par même le système de conférence, de division, tout ça, quoi.
En plus, ça reste quand même une belle affaire de passer derrière David Stern. Comme tu as dit, un long run. En tout cas, on lui souhaite.
En tout cas, on te le souhaite.
C'est là-dessus que se termine ce quatrième épisode du Two Way Podcast. Merci de nous avoir écoutés. Petite nouvelle, petit disclaimer, on est disponible sur plusieurs plateformes d'écoute. Donc, nous sommes enfin sur Apple Podcast, mesdames et messieurs. Applaudissements en interne. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous êtes sur Apple Podcast, à nous donner une petite critique, une petite note. N'hésitez pas à dire évidemment ce que vous en pensez. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur le compte du podcast, @podcast2way, sur le compte personnel de Vincent, si je me rappelle bien, @VincentLoïc_P.
C'est ça.
Et sur le mien, @LucasJCB. Vincent, un grand merci pour ce retour, cet épisode 4. On peut plus ou moins promettre que le numéro 5 va arriver très vite aussi, j'espère.
Très vite, en tout cas. On va prendre un rythme régulier.
Ça, on va reprendre un rythme régulier. Attention, dans nos propos, un rythme régulier, ça veut dire peut-être. Merci beaucoup, passez une bonne journée, bonne fin de soirée, peu importe où vous soyez, où vous écoutez, et on se dit à bientôt.
Ciao, ciao, ciao.
Curry, way downtown, bang, bang, oh what a shot from Curry, oh blocked by James, LeBron James with the rejection. Bosh, back out to Allen, his three-pointer, bang, tie game.
Rush, deep shot.
Stop!